Afrique, les infos à Washington.
Eric Manelakiza de retour avec vous. Il est 19h à Bamako, 21h à Bujumbura. Merci d'écouter VOA Afrique, les nouvelles du monde. Crise au Soudan du Sud. Le gouvernement et les rebelles ont signé aujourd'hui à Khartoum un accord sur le partage du pouvoir. L'initiative vise à mettre fin à la guerre civile meurtrière qui ravage le plus jeune pays du monde. En vertu de l'accord, le chef rebelle Riek Machar va intégrer un gouvernement d'unité nationale et devenir premier vice-président. L'accord a été signé en présence du président soudanais Omar El-Béchir et ses homologues du Kenya, d'Ouganda et de Djibouti. Et plusieurs diplomates étrangers étaient également présents. Le président Salva Kiir et son rival Riek Machar sont déjà convenus d'instaurer un cessez-le-feu permanent et de retirer leurs troupes des zones urbaines. Les deux camps avaient signé le 25 juillet un accord préliminaire sur le partage du pouvoir. Pour parachever ce processus, les négociations vont se poursuivre jusqu'à la signature d'un accord de paix définitif. Après, les belligérants auront 3 mois pour former un gouvernement de transition pour une durée de 36 mois. Il sera composé de 35 ministres, dont 20 du groupe de Salva Kiir et 9 de celui de Riek Machar, le reste représentant les autres groupes. Le Parlement comptera 550 députés. Dont 332 du groupe de Salva Kiir et 128 de celui de Riek Machar. Un accord similaire, signé en 2015, avait été violé après une bataille meurtrière et Riek Machar avait été obligé de partir en exil. Le chef de l'opposition malienne, Soumaïla Cissé, a saisi la Cour constitutionnelle du pays pour borrage d'urnes et violation de la loi électorale et irrégularité. Il accuse le camp du chef d'État sortant Ibrahim Bakar Keïta, Ibeka, arrivé en tête du premier tour de la présidentielle. La Cour constitutionnelle doit proclamer officiellement mercredi les résultats du premier tour pour démarrer la campagne du second tour qui se tient le 12 août. Le camp de l'ex-ministre des Finances a aussi déposé une requête en récusation de 6 des juges de la Cour constitutionnelle pour suspicion de partialité, notamment la présidente Manassa Danioko. L'opposant congolais en exil, Moïse Katumbi, va saisir toutes les instances après avoir été empêché vendredi et samedi de rentrer en RDC pour déposer sa candidature à l'élection présidentielle prévue le 23 décembre. Monsieur Katumbi se trouvait ce matin à 150 km de la frontière congolaise. Il a tenté de franchir vendredi et samedi depuis la Zambie au poste de Kasumbalesa. C'est ce qu'a déclaré son porte-parole Olivier Kamitatu. Au Zimbabwe, des chants Shona se sont élevés aujourd'hui dans la cathédrale du Sacré-Cœur de Harare, où des centaines de Zimbabwéens sont venus prier alors que la situation reste tendue dans le pays après des violences post-électorales. La répression de la contestation des résultats de la présidentielle qui ont donné le président sortant Emmerson Mnangagwa vainqueur dès le premier tour avec 50,8% des voix a fait au moins 6 morts. L'armée égyptienne a affirmé avoir tué 52 djihadistes au cours des derniers jours dans la péninsule du Sinaï, où elle mène une vaste opération contre la branche locale du groupe État islamique. Plus de 200 djihadistes et une trentaine de soldats sont morts depuis le lancement le 9 février de l'opération baptisée Sinaï 2018, selon des chiffres officiels. Et la Russie a condamné la tentative d'assassinat subie la veille par son allié, le président vénézuélien Nicolas Maduro, la qualifiant d'attaque aux méthodes terroristes. Monsieur Maduro a affirmé avoir échappé hier samedi à une tentative d'assassinat commis avec des drones chargés d'explosifs pendant qu'il prononçait un discours lors d'une cérémonie militaire à Caracas. Des images télévisées diffusées en direct du rassemblement montrent le chef d'État désorienté après le retentissement d'une détonation. Et c'est la fin de ce bulletin d'information. Le prochain dans 55 minutes. À tout de suite.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique. cœur de l'info sur VOA Afrique.
Foi et tradition.
Vérité et doctrine.
Le dialogue des religions.
Sur la voie de l'Amérique.
Bienvenue dans ce dialogue des religions fidèles auditrices, auditeurs de la Voix de l'Amérique, VOA Afrique, Eric Manilakiza avec vous dans ce dialogue de ce soir. Ce dialogue des religions, on parle de l'église orthodoxe éthiopienne qu'on appelle l'église orthodoxe Tewahedo éthiopienne. Voilà. Cette église se réconcilie 27 ans après sa dislocation, son schisme. Le patriarche de l'ancienne branche dissidente créée aux États-Unis, l'Abuna Mercurios, est arrivé aujourd'hui en Éthiopie et doit reprendre ses fonctions de patriarche d'une église unifiée. Le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a facilité cette entente historique. Il a entamé aux États-Unis une visite intitulée « Briser les barrières et construire des ponts ». Il rencontre la diaspora éthiopienne. Pour lui, il était impossible de penser à l'Éthiopie sans penser à l'église orthodoxe éthiopienne Tewahedo, qui est à la fois éminente et sacrée. Que vous inspire cette expérience éthiopienne de réconciliation de l'église orthodoxe Tewahedo? Avez-vous des questions à poser pour en savoir davantage sur l'église orthodoxe éthiopienne? Voilà, vous avez l'opportunité de le faire dans ce dialogue des religions. Le numéro de téléphone est le même, c'est le +1 202 205 26 33. Vous avez aussi laissé des messages sur votre page Facebook qu'on va présenter dans ce dialogue des religions. Eric Manilakiza est toujours avec vous. Nous avons un auditeur en ligne, c'est Diara Kanyomé qui est au Mali. Diara, bonsoir.
Oui, bonsoir et bonsoir à toutes les rédactions de VOA Afrique.
Voilà, l'église orthodoxe éthiopienne, est-ce que vous en savez quelque chose?
Oui, effectivement, à mon avis, je pense que Eric est vraiment, cet ministre vraiment, il a pensé à l'église pour faire son avantage. Donc, je pense que vraiment, si beaucoup de personnes pensent à l'église ou bien pensent à des mosquées, je pense que vraiment d'aujourd'hui, ça donne le courage à eux aussi pour faire leur travail. Donc, à mon avis, je pense que vraiment, si elles vont continuer comme ça, je pense que vraiment les églises aussi vont gagner avantage pour faire leurs travaux. Mais il faut imaginer qu'il y a des gens, même, et ça fait au moins certaines religions. Donc, à mon avis, je pense que vraiment, je n'ai pas tout à fait d'accord avec ça. Donc, il faut que les travaux que tu ne fais pas faire, si quelqu'un a fait, donc il faut l'encourager, à mon avis, Eric.
Diara, ce qu'il faut savoir, c'est que le Premier ministre, il est protestant et les protestants représentent 20% de la population éthiopienne. Bien entendu, l'église orthodoxe, c'est la première d'Éthiopie qui regroupe 40% des fidèles, c'est-à-dire de la population, et les musulmans qui comptent 35%. Et ce que je dois signaler aussi, c'est que le Premier ministre, il ne fait pas seulement cette démarche de réunification de l'église orthodoxe, c'est quelqu'un qui dialogue aussi avec les musulmans. Un confrère éthiopien m'en a parlé tout à l'heure.
Ok, d'accord. Merci, Eric. À mon avis, je pense que vraiment, si il a joué au moins tout le rôle en deux, je pense que vraiment, c'est pas mal. Sinon, il faut imaginer que parmi nous, il faut imaginer vraiment, j'ai constaté beaucoup, il y a des gens même exceptés au moins c'est les deux religions, donc je pense que vraiment c'est pas bon. Donc ceux qui font leurs travaux pour encourager les églises ou bien pour encourager les musulmans, je pense que vraiment si ils aident pour faire leurs travaux, je pense que vraiment j'ai encouragé pour par rapport à leurs travaux. Donc si au moins, cette première ministre a fait tout le temps. Je pense que vraiment, c'est pas mal. Donc, on nous a encouragé pour que non, il n'a qu'à travailler, à mon avis.
Diara?
Oui.
Une autre précision, c'est que l'église éthiopienne orthodoxe est une des premières églises chrétiennes du continent africain. Est-ce que vous étiez au courant de ça?
Oui, effectivement. Donc, si c'est ça, donc je pense que vraiment, on n'est pas oublié. Donc, on a tous les avantages pour aider à l'église éthiopienne. Donc, je pense que vraiment, j'ai salué cette décision. Donc, à mon avis, j'ai encouragé et pour travailler. Donc, je pense que vraiment, c'est tous les deux religions qu'on est en train de pratiquer. Ce que Dieu a demandé, à mon avis, je pense que vraiment, si au moins c'est les autres dirigeants qui font ça, pour penser à nous les peuples, pour que non, nos travaux, on doit aider et pour que non, ça va avancer. Je pense que vraiment, c'est pas mal. Sinon, il faut imaginer, il y a des gens même, ils n'est pas dans la politique, ils n'est pas au moins, ils ont riche, donc ils font travaux de l'église, ils font travaux de. Je vois, il y a des riches même, ils pensent à des l'église ou bien ils pensent à des mosquées pour aider eux pour qu'ils n'aient pas fait leurs travaux. Il y a des gens même, ils payent au moins des tonnes de ciment, il y a des gens même qui paient au moins les sables pour aider l'église ou pour aider les musulmans pour qu'ils n'aient pas construit leur maison. Donc je pense que vraiment, si ils font ça, à mon avis, je pense que le monde, on n'a pas au moins des critiques par rapport à beaucoup de choses, à mon avis, Eric.
Merci Diarra pour votre contribution dans ce dialogue des religions et bonne soirée chez vous au Mali. Je vous disais donc tantôt, l'église orthodoxe Tewahedo éthiopienne est l'une des plus anciennes églises chrétiennes du monde, constituée vers le 6e siècle. Elle emploie le rite Gaze et son chef portait le titre de patriarche. Elo Bukuni, il nous écrit sur Facebook ceci, en tout cas, ce premier ministre va changer les choses en Afrique après la réconciliation avec l'Érythrée. Voilà un deuxième succès. Que les autres dirigeants suivent l'exemple. Joseph Kabeya, il dit « Salut VOA, en tout cas, le ministre de l'Éthiopie est obligé de trouver toujours des solutions à des problèmes, mais d'après moi, je ne trouve pas la différence entre l'église catholique et l'église orthodoxe. » C'est une précision qu'on va apporter tout à l'heure, Joseph Kabeya, si vous êtes en train d'écouter ce dialogue des religions. Enoch de la RDC dit « Les hommes de Dieu se séparent et l'autorité politique les réconcilie. C'est une honte pour l'Église car les saintes écritures prônent l'unité et l'amour et non la division. Au contraire, c'est aux politiques de venir aux hommes de Dieu, de les aider à résoudre leurs conflits. » Eh bien, ça peut exister que les hommes politiques aussi peuvent participer à la réconciliation. Et ce qu'il faut savoir dans le contexte de l'église orthodoxe Tewahedo éthiopienne, c'est que le processus de réconciliation a commencé depuis très longtemps, mais le premier ministre actuel, Abiy Ahmed, n'a fait que l'accélérer et il a conclu justement cette unification et le patriarche est rentré pour reprendre la direction de l'église unifiée. Nous avons Steve Boko en ligne. Bonsoir Steve.
Oui, bonsoir monsieur le journaliste.
Voilà, vous avez suivi le début de ce dialogue des religions, vous avez été témoin justement de ce qui se passe dans la Corne de l'Afrique, n'est-ce pas?
Oui, je suis témoin vraiment des choses dont les religions nous apportent, parce que moi qui suis là, je suis chrétien. Ouais, donc ce premier ministre, je vois qu'il est vraiment le nationaliste. C'était vraiment nationaliste parce que ce sont ses premiers ministres ou ce sont ses personnels dont les politiques aussi doivent emboîter pour pouvoir faire sortir nos continents de son état de barbarie dont nous nous constatons. Parce que il a la vision pour l'Afrique. Moi, je l'encourage beaucoup dans son nouveau service, dans ses services, j'allais dire. Parce qu'il a deux services, le service de gouverner le pays, plus bien conduit son gouvernement. Et suite à ça, nous avons encore l'Église, donc il soutient à chaque fois. Pourtant, c'était hommes politiques ou même des hommes de Dieu se disent hommes de Dieu, mais ils sèment de terreur au sein de nos populations. Donc, voici qu'un homme, un philanthrope, il y a même un politique qui a l'amour pour son pays. Donc, pour cela, nous devrions même l'encourager. Et moi, je l'encourage beaucoup. Et que je souhaiterais que les autres autorités puissent emboîter ce pas pour enlever l'Afrique de son état de barbarie dont nous nous constatons.
Steve.
Oui.
Le Premier ministre Abiy Ahmed, il a noté que l'événement pour la réconciliation marque un bond historique. Et il a souligné que c'était quelque chose qui aurait dû avoir lieu il y a longtemps. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est un processus qui a commencé avant lui et que lui, il a achevé, il a mis en application.
Ah, okay. Bon, vous savez, ici en Afrique, les décisions sont prises souvent, mais utopiques. Celui qui l'a mis en vigueur, c'est celui que nous devrions féliciter. Sinon, à chaque fois ou chaque jour que Dieu fait, les décisions sont prises. Mais on ne les met jamais en vigueur. Vous voyez? Donc, pour cela, comme lui, il a essayé de mettre ça en vigueur, plus, et il est là pour montrer vraiment, il montre sa philanthropie et même son nationalisme aux populations. Vraiment, nous l'encourageons. Plus moi-même, que je suis l'élu chrétien, je me le disais. Mais si tout le monde se réfère à la parole de Dieu, comme ça, nous allons voir que la paix va jaillir nos continents. Et moi, beaucoup, je l'encourage que Dieu n'a qu'à beaucoup l'utiliser pour qu'il continue dans ce volet.
Steve.
Oui, je vous le dis.
Vous avez dit que vous êtes chrétien, n'est-ce pas?
Oui.
Vous êtes catholique?
Non, je suis protestant baptiste.
Ah, protestant baptiste.
Ah oui.
Il y a une question ici de Joseph Kabeya.
Oui.
Est-ce que vous pourriez par exemple lui dire la différence entre être chrétien, disons protestant, et être orthodoxe, parce que les orthodoxes ce sont aussi des chrétiens.
Bon, moi je pense que moi, sans vous mentir, je ne maîtrise pas bien le mot orthodoxe. Orthodoxe, je vois que c'est ce qui est un peu bizarre, qui est un peu en extrapolation même de la parole de Dieu. Mais si on être chrétien, c'est celui, vous pouvez être homme chrétien et vous ne respectez pas la parole de Dieu, ça fait, on peut les qualifier d'orthodoxes. Mais si vous êtes chrétien, c'est celui qui respecte la parole de Dieu, qui respecte tout dans la Bible dit.
Mais tout le monde reflète la parole de Dieu.
Oui,
disons des religions. Disons des religions, et les religions sont différentes des individus.
Oui, parce qu'il y a des gens, ils arrivent à diffuser la parole de Dieu, il ne faut que raconter des choses de vie seulement dans les temples, disant qu'ils vont aussi à l'église. Ça, c'est ceux qui sont en extrapolation, et on peut les qualifier même des églises orthodoxes, puisqu'ils ne sont dans la parole de Dieu, puisque Dieu même, il est dans sa parole, lui dit qu'il est dans sa parole. Si vous ne diffusez pas la parole, c'est que vous n'êtes pas chrétien, vous voyez. Et vous devez même respecter la parole de Dieu. C'est ça le nœud même de la parole de Dieu. Mais orthodoxe, je pense que autrement dit, ce sont des choses qui sont en extrapolation, qui ne sont correctes, que l'on appelle orthodoxe souvent. On dit vraiment, c'est vraiment orthodoxe. C'est vraiment aberrant ou c'est vraiment exécrable. Donc je pense très bien que c'est comme ça que nous pouvons définir un peu le mot chrétien et puis orthodoxe. En récapitulatif, je peux dire que
C'est votre compréhension.
Oui, en récapitulatif, pour moi, je peux dire que un chrétien, c'est celui qui respecte la parole de Dieu. Orthodoxe, c'est celui qui va à l'église, mais il émet
la respecte
parole
aussi,
de Dieu en pratique.
Il respecte aussi la parole de Dieu.
Mais oui, un chrétien, c'est celui qui respecte, mais celui qui ne
même
respecte
un musulman,
pas, mais il va à l'église. C'est ceux-là que nous pouvons les qualifier d'orthodoxes.
Et un musulman aussi qui va à la mosquée.
Oh bon, ceux qui vont à la mosquée, moi je les connais les branches, parce que moi c'est ma branche qui me porte beaucoup, pour ne pas rentrer en extrapolation du sujet.
Merci Steve pour votre participation dans ce dialogue des religions. Nous avons Julien en ligne, bonsoir. Allô?
Bonsoir. Allô, bonsoir.
Julien, voilà, on parle de la réconciliation de l'Église orthodoxe tewahedo éthiopienne.
Merci, bonsoir. Merci pour la thématique que nous avons eue du regard. Et merci pour les analyses de certaines amies qui viennent évoquer déjà la thématique. Par rapport donc à l'Église orthodoxe éthiopienne, c'était donc à mon commentaire que je voulais vous dire que l'Église orthodoxe éthiopienne revient un caractère conflictuel, même s'il a fallu d'abord une intervention. Monsieur le Premier ministre,
Allô?
Allô?
Julien?
Oui, bonsoir.
Vous nous entendez?
Je vous entends.
Voilà. Est-ce que vous étiez au courant de l'histoire de l'Église orthodoxe en Éthiopie? Je pense que Julien n'est pas bien connecté, nous l'avons perdu. C'était Julien qui nous appelait du Cameroun. Il y a Ben Kab congolais qui dit, je pense que le Premier ministre Abiy Ahmed a fait une belle initiative. Ben a deux questions qu'il pose. Qu'est-ce qui a poussé à l'Église orthodoxe de se réconcilier? Qu'est-ce qui est à l'origine de la dislocation de cette Église? Ben, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Église orthodoxe éthiopienne Tewahedo s'était scindée en deux en 1991. C'était après le 28 mai, après la nomination d'un nouveau patriarche suite à l'arrivée au pouvoir du Front démocratique et révolutionnaire des peuples éthiopiens. C'était à la fin du régime, du brutal régime militaro-marxiste du Derg. Et le Derg, c'était le gouvernement militaire provisoire de l'Éthiopie socialiste qui était dirigé par Mengistu Haile Mariam, qui venait de renverser l'empereur Haïlé Selassie. Et c'est Mengistu qui nomme un nouveau patriarche. Et le patriarche et l'autre groupe, l'autre église qui s'est scindée en deux après ces événements, il y a eu aux États-Unis une branche qui s'est créé autour du patriarche Mercurios qui y a pris le leadership de cette synode. C'était donc après 91, et c'est le patriarche Mercurios qui est rentré aujourd'hui en Éthiopie pour reprendre le leadership de l'Église. Et jusque-là, c'est l'Abuna Matthias qui était accepté, reconnu comme patriarche par le pouvoir éthiopien. Il va néanmoins conserver ce rôle et sera chargé de mener l'Église en effectuant des tâches administratives, tandis que Mercurios va être à la tête de l'Église. Il va y avoir une co-gestion. Et comme je le disais, ça remonte, l'Église orthodoxe est la première d'Éthiopie et remonte au 4e siècle. Et ce que vous devez savoir, c'est que la population éthiopienne, a une tradition très ancrée dans l'histoire de l'Église orthodoxe, très pieux. Et à l'époque, avec Mengistu Haïlé Mariam. La population éthiopienne a eu du mal avec la rhétorique communiste qui rompait avec les traditions orthodoxes. Et le Premier ministre Abiy Ahmed l'a dit lors de la réconciliation des deux branches, il a dit que l'Éthiopie, qu'il était impossible de penser à l'Éthiopie sans penser à l'Église orthodoxe éthiopienne Tewahedo, qui est à la fois éminente et sacrée. Les discussions entre les deux mouvements avaient commencé il y a des années, mais c'est le Premier ministre nommé en avril, qui est crédité d'avoir accéléré le processus de réconciliation. Maintenant, aussi longtemps que les deux patriarches seront vivants, ils seront considérés sur un pied d'égalité par l'Église, et l'accord qui a été signé précise bien qu'à compter de ce jour, il n'y a plus qu'une Église unifiée, c'est l'Église orthodoxe Tewahedo éthiopienne. Et depuis le comité d'unification et réconciliation a exprimé sa plus profonde gratitude au Premier ministre Abiy Ahmed pour ses efforts importants pendant le processus de réconciliation. Nous avons d'autres commentaires des auditeurs. C'est Alphonse Mbouaki qui dit « L'Église orthodoxe éthiopienne donne quelle place à la femme ? La femme est-elle autorisée à exercer le pastoral ou bien est-elle écartée du sacerdoce ?» Alphonse, on n'aura pas toutes les réponses à tes questions, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'Église doit sans doute donner une place importante, une grande place importante à la femme, puisque l'Église compte 40% des fidèles. Et vous savez que les femmes constituent la majorité de la population. On parlait de la fondation de l'Église orthodoxe Tewahedo éthiopienne. Il faut savoir aussi que c'est une église des trois conciles, et il y a l'une des églises d'Orient de théologie miaphysite ayant rejeté les dogmes établis lors du concile de Chalcédoine. C'était en 451, et au 7e siècle, les conquêtes musulmanes et l'installation de plusieurs sultanats dans la Corne de l'Afrique l'isolent partiellement du reste du monde chrétien. C'est la source du mythe du royaume du prêtre Jean, et à partir du 13e siècle, avec la prise de pouvoir par la dynastie salomonide, l'Église connaît une période de renouveau théologique et de renforcement de ses positions. Elle diffuse la religion dans le pays, y instaure un système éducatif et poursuit le développement liturgique et artistique débuté sous les précédents régimes. Au XVIe siècle, avec la guerre contre le sultanat d'Adal, le christianisme éthiopien est sur le point de s'effondrer avec le royaume comme disparaît alors le christianisme en Nubie. C'est en partie l'arrivée de soldats portugais qui lui permet de survivre. Les missionnaires qui les accompagnent sont expulsés du pays en 1632 après avoir tenté de convertir le pays au catholicisme. Et c'est ici que nous mettons un point final à ce dialogue des religions parlées de l'Église orthodoxe Tewahedo éthiopienne, qui a retrouvé son autonomie en 1926 lorsqu'elle a entrepris une marche vers l'autonomie vis-à-vis du patriarche d'Alexandrie, et en 1951 elle devient officiellement autocéphale. Merci à tous les auditeurs qui nous ont suivis. À la prochaine.